Voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la jeunesse comme graine d'espoir. C'est un documentaire de Pierre Bécu qui sort en salle en France cette semaine avec une fraîcheur inédite. 332 enfants ou adolescents se sont filmés en France, en Espagne, à Madagascar, au Burkina Faso et ils s'interrogent ensemble sur l'avenir du monde. Justice sociale, environnement, agriculture, alimentation. Les dialogues spontanés lors de reportages démontrent une fois de plus l'espoir d'une jeunesse qui partage la curiosité, l'empathie et les mêmes grandes aspirations. Bonjour Pierre Bécu.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de Graines d'espoir et également avec nous Rukyata Ouedraogo. Bonjour. Rukyata Ouedraogo, est-ce que vous nous entendez? Vous étiez en ligne
oui.
avec nous. Oui, bonjour.
Oui,
bonjour. Bonjour Rukyata Ouedraogo. Merci d'être au téléphone avec nous. Vous êtes auteure, comédienne. Vous nous direz pourquoi vous avez participé au documentaire de Pierre Bécu, Graines d'espoir. Et je signale aussi, bien sûr, votre spectacle en tournée à l'heure actuelle dans toute la France. Je demande la route. Et quant à vous, les voisins, les voisines, si dans votre vie, vous vous sentez concerné par cette idée de jeunesse internationale, appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 74 45 51 41. Vous le savez, vous pouvez toujours réagir à tout moment dans notre émission. Et puis en fin d'émission, comme chaque semaine, la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, que peut signifier prendre du recul dans l'exercice de la parentalité? Ça sera son sujet de réflexion aujourd'hui pour les parents, pour les enseignants qui nous écoutent. Et tout de suite, je vous propose Graines d'espoir avec des élèves d'école élémentaire, des collégiens. Un extrait qui, en apprenant à filmer le monde qui nous entoure, construisent aussi une réflexion commune. Et ils ont pas mal de messages pour nous, les adultes.
Au début, on a un plan d'ensemble sur Thomas qui est en train de charger le vélo.
Oui, je vois les deux.
On a un plan américain sur un enfant qui aide Thomas à charger.
Ok, allez, je te suis.
Quand la planète va mal, nous les enfants, on ne sait pas quoi faire.
Ma sœur à moi, ben elle est absorbée par les écrans.
Pourquoi les adultes échouent?
Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les enfants, pour l'écologie?
Plutôt utiliser les éoliennes, les panneaux solaires.
Arrêter les suremballages.
Moi, je trouve que c'est un beau métier, c'est vrai.
Comment vous pourriez faire pour travailler plus ensemble?
Il faudrait que les gens soient plus en harmonie, qu'ils arrêtent de faire des disputes pour savoir c'est qui le plus fort.
Sinon, on s'enferme sur soi et on croit que soi, c'est le monde.
C'est une équipe, en fait, la Terre. Faut qu'on se soude.
À tout moment, il faut dire qu'est-ce que je dois faire pour que ça change.
On est tous utiles en fait, on sert tous à quelque chose.
L'espoir, il est vraiment dans constater que les jeunes humains ne sont pas forcément à considérer comme des non-sachants.
Les enfants ont le droit de s'exprimer en lieu public. Ils ont aussi le droit de donner des conseils à les personnes plus âgées qu'eux.
Oui!
Pierre Bécu, Rukyata Ouedraogo, votre documentaire a été tourné pendant près de 2 ans, Pierre Bécu?
Oui, absolument.
Avant la pandémie.
C'est ça.
C'est une grande chance. Pas de masque, pas de restrictions de déplacement. Et avant le coup d'État au Burkina Faso pour la séquence qui est tournée au Burkina Faso, Rukyata Ouedraogo.
Voilà. Oui.
Pourquoi, en tant que comédienne et auteure, Rukyata Ouedraogo, vous êtes lancée dans ce projet documentaire?
Écoutez, quand Pierre m'a contactée, il avait déjà commencé le projet. Et j'ai vraiment aimé le projet quand il me l'a présenté. Je me suis sentie interpellée parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, parce que le monde souffre. Et parce que aussi, ça faisait écho à mes idéologies. Et j'ai trouvé que donner la parole aux enfants était vraiment quelque chose d'inattendu et quelque chose de très franc, parce que les enfants ne mentent pas, quoi. Les enfants disent la vérité. Et j'ai trouvé que c'était un très, très beau projet. Voilà. Je me suis sentie en tout cas interpellée, il fallait faire quelque chose.
Et puis bien sûr, quand on voit votre choix, Rukyata Ouédraogo, on pense aussi à la comédienne Aïssa Maïga avec son documentaire Marcher sur l'eau,
oui,
qui s'est engagée dans le combat, oui, qui s'est engagée contre le réchauffement climatique et le continent africain comme première victime des conséquences du réchauffement climatique. Quel peut être le rôle, selon vous, Rukyata, de cette diaspora qui réussit en France pour mieux faire passer des messages?
Vous savez, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Et comme moi, je dis souvent, je ne monte pas sur scène. Par exemple, quand je prends mon exemple, je ne monte pas sur scène pour parler de la pluie et du beau temps. Il y a tellement de choses lourdes, il y a tellement de choses à parler. Donc voilà, on a cette chance d'avoir cette visibilité et donc on profite pour vraiment faire passer le message. Je ne suis pas la seule, il y en a plein d'autres qui le font et j'invite massivement les gens à le faire et à continuer à le faire. C'est important.
Et Pierre Bécu, pourquoi vous aviez cette idée de faire dialoguer des enfants d'Europe et d'Afrique, puisque donc vous avez tourné à Madagascar, au Burkina Faso, en Espagne, en France, dans la région de Grenoble?
Oui, dans les Alpes, et puis aussi à l'île de la Réunion,
oui,
parce que j'étais beaucoup allé là-bas pour tourner, déjà dans les années 90-2000. En fait, parce que j'ai parcouru le monde pour les émissions de télévision que les gens connaissent, hein, Ushuaïa, Faut pas rêver, et d'autres magazines. Et je me suis rendu compte qu'en fait, petit à petit, on rencontrait pas vraiment les gens en fait dans ces émissions-là. On vend de l'exotisme en fait, comme les Français l'attendent. Et ça me faisait mal pour les populations souvent de repartir avec des images un peu faussées. Et surtout le regard des enfants porté sur notre matériel, sur nos caméras, en se disant ben ça, ce sera jamais pour nous en fait. Et en tant que fils de montagnard paysan, je considère que c'est une chance d'avoir pu faire ce métier. Et pour moi, la transmission de donner des caméras à des enfants dans le monde entier, quelle que soit leur origine et leur âge et leur niveau social, c'est un geste.
Oui, parce qu'il y a des enfants d'un quartier populaire à Grenoble, c'est la même chose sur l'île de la Réunion. Qu'est-ce qui vous a frappé tous les deux dans leur façon d'appréhender leur mission documentaire? Quand on met une caméra dans les mains d'un enfant, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier?
Bah déjà, ce que je voulais dire, c'est la rencontre avec Rukyata, pour moi, elle est basée sur son spectacle. Quand j'ai vu son spectacle, Je demande la route, franchement, j'ai passé la moitié du temps à pleurer et l'autre moitié du temps à rire. Et parfois les deux mélangés. Et je me suis dit, avec des sujets... c'est pas forcément des sujets sérieux, mais elle raconte beaucoup son enfance, son arrivée en France, avec des sujets qui sont d'une humanité extraordinaire. Elle arrive à, avec la poésie, avec le texte, avec l'interprétation, à faire quelque chose de formidable. Et ça, elle aussi, c'est une petite fille de Fada, Fada Ngourma, au Burkina. Et on est tous des... Il n'y a pas besoin d'être né avec une cuillère dans la bouche. A priori, si, de plus en plus, puisque les inégalités se creusent. Mais c'est à nous qui avons ces origines modestes, qui avons le souvenir de notre enfance, de se battre pour que l'égalité l'emporte.
Ouais. Alors, Rukyata Ouédraogo, avant qu'on vous redonne la parole, je voudrais qu'on écoute un extrait du documentaire Graines d'espoir, où des enfants de la région de Grenoble dialoguent en visioconférence avec une classe d'une école élémentaire publique à Ouagadougou. Il y a 84 élèves dans la classe, des locaux très rudimentaires. L'image est déjà d'ailleurs un choc sur grand écran pour les petits Français qui sont dans leur classe. Et qui ont préparé leurs questions. On est dans le quartier à Ouaga de Kilouin.
Bonjour, je m'appelle Asma. Et en fait, j'ai des questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous avez la Wi-Fi chez vous?
Est-ce que vous avez des familles?
Si oui, laquelle?
Qu'est-ce que vous mangez?
Savoir.
À la cantine, si vous avez une cantine, si vous n'avez pas de cantine, vous mangez où?
Est-ce que votre école, elle est grande?
Est-ce qu'elle est petite?
Est-ce que votre quartier est grand, petit?
Clap. Action.
Oui, nous avons de la musique. Et vous, vous écoutez quoi?
Ma chanson préférée est « Je vais m'en aller ».
Nos religions sont musulmanes, catholiques, protestants.
Il y a aussi l'animisme.
Ici au Burkina, dans la même famille, on peut avoir des musulmans et des catholiques.
Opérationnel 5 sur 5, on applaudit très fort pour vous. Voilà. Donc aujourd'hui, on va causer. Vous savez, on a parlé de vos droits, non? Vous avez droit à quoi? À la santé, à la... Ah oui?
L'enfant a droit à la vie.
L'enfant a droit à la santé, l'enfant a droit à une famille et l'enfant a droit à un acte de naissance.
Parmi tout ce que tu as cité, c'est très bien. Tu ne penses pas qu'il y a autre chose à travailler encore, à chercher encore? Il a droit à quoi, par exemple?
À l'éducation.
À l'éducation, donc la scolarité. Est-ce que tu connais des enfants qui ont ton âge et qui ont dû arrêter l'école pour travailler à côté?
Oui.
Et pourquoi ils ont dû arrêter l'école?
Ils ont fermé les écoles.
Ils ont laissé l'école car leurs parents n'ont pas d'argent pour payer leur scolarité.
Rukia Tawedrago, vous êtes arrivée en France il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous avez ressenti en retournant dans l'univers scolaire de votre pays? Là, c'était à Ouaga, vous avez été scolarisée à l'est du Burkina. Mais ça, c'est pas fondamentalement différent dans ces écoles publiques aux classes surchargées.
Ah, vous savez, j'ai beaucoup d'émotions en écoutant cet extrait-là parce que c'est très fort. Mmh. Et c'est vrai que ça me fait... quand je suis rentrée dans cette classe et j'ai vu ces enfants, je me suis retrouvée des années en arrière. J'avais l'impression que le temps avait été resté figé et que rien n'avait changé. Mmh. C'est vrai que ces enfants sont nombreux dans la classe et c'est compliqué pour les professeurs d'école. Pour eux aussi, c'est compliqué. Le fait que je pense actuellement à mon pays parce que beaucoup de classes, beaucoup d'écoles sont fermées et les enfants se retrouvent dehors.
Mmh. Et à c'est cause très de l'insécurité du conflit au Sahel, oui, et des déplacements de population.
Oui, 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 absolument. Et c'est vrai que ces enfants ne demandent qu'une seule chose, c'est d'apprendre. Ils ont soif d'apprendre. On a vu dans leurs yeux, on a vu tout le courage qu'ils ont de faire des kilomètres et des kilomètres pour venir à l'école. Et parfois, ils n'ont même pas à manger le midi. Et c'est très compliqué. Et vraiment, ce documentaire est tellement formidable. Et ça montre vraiment les choses que nous pouvons faire, que nous pouvons apporter à ces enfants-là.
Alors, beaucoup d'écoles ont néanmoins été construites sur l'impulsion de l'éducation pour tous dans les pays du Sahel. Mais vous racontez dans le documentaire que ces enfants-là, dans le quartier Kilouin, sur le chemin de l'école le matin, ils passent devant 4 écoles privées qui sont trop coûteuses pour leur famille. Et ils se retrouvent scolarisés dans des classes d'écoles publiques surchargées.
Absolument.
Ah, c'est la réalité vraiment de ces quartiers c'est compliqué. Scolariser ses enfants dans le privé, c'est impossible pour la plupart des familles. C'est très cher.
Même si le nombre d'écoles privées dans tous ces pays-là a explosé. Alors, vous avez suivi les élèves aussi dans un reportage sur la construction d'habitations en terre. Là, on est dans le quartier Bouassa. On écoute.
Donc, l'association aussi fait des activités avec la population.
Je vais vous expliquer oralement, mais vous aurez le temps de rentrer visiter, voir à quoi ça ressemble construit en terre.
J'ai fait le son. Madina, actrice, elle a posé la question, combien de maisons ils ont à leur association?
L'association YAM Solidarité a construit 17 maisons à Bouassa.
Un des avantages pour construire en terre, c'est quoi? C'est que quand je veux construire en terre, moi-même, je peux construire. Donc, on peut faire l'autoconstruction. Donc, je vais, si je suis au village, je peux prendre ma charrette, je peux aller en brousse, creuser, enlever la terre, faire mes briques, demander l'aide de mes parents. On peut construire. Alors que le ciment, il faut chaque fois acheter. Ici, le ciment, c'est industriel. Et ce qui est industriel pollue beaucoup. Et ici en Afrique, on a des problèmes de pollution. Donc, le fait d'utiliser la terre, c'est une façon aussi de conserver la nature. Nous, au niveau de YAM Solidarité, nous pensons que c'est très bien, très judicieux de pouvoir construire en terre.
On a ressenti qu'il fait frais à l'intérieur des maisons en terre. On a ressenti que les maisons en terre construites par l'association sont solides. On a ressenti que les maisons sont solides. On a ressenti la joie sur tout le monde.
L'évidence dans la bouche des enfants dans ce quartier Bouassa à Ouagadougou qui découvrent une autre façon de construire des habitations individuelles, moins coûteuses que le ciment. Les enfants sont vraiment des personnes qui sont totalement ouvertes au changement, à l'innovation, Pierre Bécu.
Oui, c'est ce qu'on a constaté, parce qu'en fait, on a traité de beaucoup de thèmes, mais ce qui a été retenu au montage ici, c'est le fait qu'à Grenoble, les petits grenoblois qui ont communiqué avec les petits burkinabés étaient allés visiter un laboratoire, le laboratoire Cratère, dans l'école d'architecture, à 300 mètres du centre social dans lequel ils étaient.
À Grenoble.
À Grenoble. Ils ont découvert que on pouvait construire en terre avec des matériaux sains, gratuits, etc. Et ils ont posé la question aux petits Burkinabés pour savoir si ça existait chez eux. Et du coup, naturellement, on est allé dans ce quartier-là. Voilà. Le fil qui est tiré, il est toujours naturel à partir de la curiosité des enfants.
Ouais. Et il se trouve qu'au Burkina Faso, il y a des expériences depuis très longtemps, à la faveur de nombreuses associations, notamment la voûte nubienne et d'autres. Hein. Et c'est vrai que là-dessus, on voit bien que l'Afrique sahélienne a une longueur d'avance dans les questionnements, Rukyata Ouédraogo.
Oui, absolument. Et les enfants sont vraiment les acteurs de l'avenir. Et c'est par eux maintenant que le monde va se faire. Donc, il faut leur donner le flambeau et les aider à aller de l'avant et surtout pour sauver la planète, cette planète qui est très, très mal. Et effectivement, oui, il y a des techniques de construction. Il y a plein de choses au Burkina. Il suffit juste maintenant que les gens les aident à ce que ça soit beaucoup plus visible, à former des gens, même à place, en place là-bas, qui vont pouvoir construire des bâtiments comme ça.
Tout à fait. C'est la question de la visibilité, c'est très important. C'est que oui. un enfant qui n'est pas au courant de toutes ces démarches-là, notamment celle sur l'agriculture qu'on présente, hein, avec la cinéco-culture dans le film, si les enfants ne sont jamais au courant de ce qui se passe, ils vont continuer à être tributaires de ce qui vient de l'extérieur, qui est très cher, qui est inaccessible et qui est polluant.
Ouais, et on les sent très intéressés, les enfants. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment leur regard captivé par ces images sur l'agriculture, la cinécoculture, c'est où on plante beaucoup d'arbres, on cultive sous le couvert des arbres. C'est ça, hein, je parle sous votre
c'est
contrôle,
ça,
Pierre Bécu. Que ce soit d'ailleurs à Grenoble ou à Ouagadougou, ils sont captivés par ces questions-là.
Oui, parce que c'est l'évidence, en fait. Vous savez, les enfants, au début, par provocation, ils voulaient tous des téléphones. Quand je leur demandais, vous voulez quoi pour l'avenir? C'était de la technologie et du matériel. Mais après, ils veulent quoi? Ils veulent la santé, pour leurs parents, leurs grands-parents, pour eux. Santé physique, santé mentale. Ils veulent vivre ensemble, ils veulent leur famille, ils veulent des choses saines.
Rukyata Ouédraogo, vous montrez aussi des images de drones sur ce qu'il reste du projet de ceinture verte autour de Ouaga. Et là, c'est vrai que c'est moins optimiste. Hein. On voit des champs de sacs plastiques en grande partie.
Oui, ça c'est l'horreur. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, les sacs plastiques chez moi au Burkina, un peu aussi en Afrique. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. On ne sait pas comment faire, mais je pense que les sacs plastiques non seulement polluent le sol, tuent les animaux, on le voit un peu partout, ça, dans les mers, sur nos plages. Voilà, il y a un gros travail à faire.
Vous avez le sentiment que cette nouvelle génération qui est encore scolarisée à l'école élémentaire ou au collège sera très différente de la génération actuelle, voire même des jeunes en université aujourd'hui, Rukyata Ouédraogo?
Absolument, j'en suis convaincue. Et surtout avec des gens comme Pierre Bécu qui font des reportages, qui donnent la parole à cette jeunesse-là, pour les montrer les choses, qui les informent aussi, qui les apprennent. Pour moi, c'est des clés, c'est des éléments nécessaires pour que la jeunesse puisse s'autonomiser et faire des choses bien pour cet avenir-là. Et j'ai confiance en eux. Il faut absolument leur donner ces outils-là.
Vous êtes aussi allé, Pierre Bécu, sur l'île de la Réunion auprès d'enfants d'une autre France. Pourquoi l'île de la Réunion, finalement ?
Parce que je connaissais déjà bien. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de casting. Hein. On n'a pas dit, le Burkina, parce que c'est ceci, cela. Non, c'est Grenoble étant jumelé avec Ouaga, on est allé à Ouaga. La Réunion, j'y suis retourné pour présenter le film précédent. Et y a un collectif d'enseignants qui m'ont sollicité pour poursuivre avec eux. Madagascar est venu logiquement à partir de la Réunion. Donc, pas eu de casting. Tous les élèves qui ont commencé, quels que soient les effectifs, à 25 ou à 85, ont fini intégralement le projet. Ça, c'est très important. Donc, la diversité, évidemment, culturelle est forte à La Réunion. C'est aussi une façon de ne pas stigmatiser Nord-Sud d'une façon trop comme ça, violente, quoi. Et puis c'est la possibilité d'instaurer une continuité. Ce que dit Rukyata est tout à fait vrai. Il faut que, je ne suis évidemment pas le seul, on est très très nombreux à faire ça, mais il faut qu'on puisse le faire dans la continuité. Donc je compte retourner à La Réunion, c'est déjà fait, mais au Burkina, dans des temps meilleurs évidemment, pour continuer avec tous ceux qui m'ont aidé là-bas, pour diffuser ces récits avec les jeunes eux-mêmes en tant que médiateurs. ils grandissent et ils continuent d'être citoyens.
Ouais, et ils ont beaucoup de choses à enseigner aux adultes avec ce regard très, très froid et lucide. Rukyata Ouedraogo, je sais que vous devez nous quitter malheureusement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de nous quitter ?
Écoutez, si vous me le permettez, j'aimerais avoir un mot pour mon pays qui vit des situations assez compliquées. Vraiment, je les porte dans mon cœur et j'espère que la paix reviendra au Burkina et que Dieu bénisse le Burkina et ses enfants. Mmh. Voilà, une grande pensée pour eux. Et j'aimerais remercier Pierre Becu de m'avoir fait confiance pour m'associer à son très, très beau documentaire. Et allez-y le voir parce que c'est un beau film qui mérite d'être vu.
Merci.
Voilà, allez-y le voir.
Merci. Rukyata.
Graine d'espoir, donc, dans lequel on vous retrouve, Rukyata Ouedraogo, comme merveilleux trait d'union hein, entre les enfants de Grenoble et ceux de Ouagadougou. Mais bien évidemment, il y a d'autres lieux où est tourné ce documentaire. On écoute maintenant cette rencontre désarmante de sincérité entre une agricultrice bio sur l'île de La Réunion et des élèves d'école élémentaire également qui vivent à La Réunion.
Est-ce qu'on peut faire de l'agriculture biologique à La Réunion ?
Bien sûr, oui, on peut, oui. Avant, on achetait beaucoup d'insecticides, etc., d'engrais, etc. Et on voyait que si on ne mettait pas d'insecticides, ou on mettait ou on ne mettait pas, c'était pareil. Il vaut mieux dépenser moins, pas acheter du tout d'insecticides. Et c'est mieux pour la santé, voilà. Est-ce que vous aimeriez être agricultrice dans le futur ?
Non.
Non ? Pourquoi ?
Moi, parce que déjà, j'aime pas trop la terre. C'est que... ça salit, mais et j'aime pas trop ça. Mais à un moment, il faut. J'aimerais faire d'autres métiers.
C'est bien, mais si t'aimes pas la terre, c'est pas la peine de
venir.
Je
suis avec mon papa, mais c'est pas pour en faire un métier.
Ah, tu aides quand même ton père.
Oui.
C'est bien. Ça va venir peut-être. Pour l'instant, tu aimes pas, mais tu vas grandir. C'est pas pareil. On change en grandissant.
D'accord.
Moi, je voudrais aller dans une autre branche d'avenir, mais même si je pense que je ferais quand même un potager bio ça, mais pas non plus à faire mon métier.
Tu sais pas encore ce que c'est.
Moi, soit aller dans la politique ou soit...
La politique.
Ou sinon dans la médecine.
La médecine. C'est bien la médecine, hein.
Moi, je ferais toujours quelques petits légumes, mais je ferais esthéticienne.
Ah, des produits naturels.
Oui.
Ouais, tu auras besoin d'un agriculteur pour toi, si tu veux te lancer dans cette branche-là.
Vous aimeriez changer de travail ?
Non, pourquoi ? J'aime bien ma terre, moi.
Et ici, avant ce travail, vous avez fait d'autres ?
Non. Toujours fait ça.
Avant, vous aimeriez pas faire d'autres métiers ?
Non, pas du tout. Pas du tout, la terre me convient.
Oui, c'est saisissant quand même ce dialogue, hein, parce qu'on sent bien que cette cultivatrice bio sur l'île de La Réunion, elle est un peu déçue finalement par les réponses des enfants qui ne sont pas franchement attirés par le travail de la terre. En tout cas, dans ce quartier-là, à l'île de La Réunion, ça peut changer ailleurs. Hein.
Oui, ça peut changer. Évidemment que c'est le temps passé, parce que toutes les écoles... ont eu la possibilité de percevoir, tous les élèves ont eu la possibilité de percevoir et de ressentir par eux-mêmes dans des espaces naturels. Et on a travaillé sur une bande passante comme ça, qui allait de la perception de la nature à un usage sensé des outils connectés et du numérique. Donc forcément que le passage chez Delaine, chez l'agricultrice, aura aussi modifié leur façon de voir.
Les enfants prennent conscience au fil du reportage que leur île, l'île de La Réunion, n'a aucune autosuffisance alimentaire, alors que tout pousse sur l'île.
Oui, alors c'est pas aucune, mais c'est vrai qu'ils en sont très loin. Et il y a effectivement, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire là-bas et qui va progresser assez vite. D'autant plus que d'autant plus que la canne à sucre n'est pas forcément très naturelle à La Réunion. Elle vient plutôt des Antilles. Et qu'ils consomment beaucoup de riz, mais ils n'en produisent absolument pas. Enfin, bref, il y a tout un travail, mais qui est, je pense, le cas dans tous les pays, dans tous les territoires, et qui peut être fait en s'intéressant déjà, c'est ce qu'ont fait les enfants de Graines d'Espoir, à ce qui se fait à côté de chez eux. C'est-à-dire qu'il y a cette notion, oui, de sauver la planète, mais là, on s'est plus axé sur leur avenir à eux. C'est-à-dire prendre les choses par l'autre bout, et surtout que ce ne soit pas que des paroles, mais aussi une mise en acte, réellement être le passé, la capacité de l'enfant à retrouver ou à trouver son pouvoir d'agir.
Pouvoir d'agir et de se servir de ses mains, accessoirement. On Absolument. Va y arriver. Pierre Bécu, vous restez avec nous. On a des choses à apprendre des enquêtes des enfants. On entendra dans quelques minutes un dialogue saisissant entre élèves sur la question des écrans et le regard qu'ils portent aussi sur leurs propres parents. Ça sera juste après Emma Peters.
C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop vieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma tête et si ça te tente, ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas. Gros virement sur mon compte. Non, ça, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel pauvre. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la nuit. J'ai bu beaucoup trop de lit, je sais pas comment je vais rentrer, mais. Si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. Oh, c'est la terre des terres, je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout. On est bien trop fous. On est bien trop fous. On est bien trop fous.
Emma Peters chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI avec Pierre Bécu et pour votre documentaire Graines d'espoir, le principe, on le rappelle, hein, des enfants, plus de 300 enfants, alors en Espagne, en France, notamment aussi sur l'île de la Réunion et pas que en métropole, à Madagascar, à Ouagadougou, Burkina Faso, des enfants qui se sont filmés, à qui vous avez donné une caméra, il y a eu des ateliers cinéma pour apprendre à cadrer, etc. Et pour qu'ils filment le monde qui les entoure, pour qu'ils établissent des problématiques sur les grands sujets de leur avenir, notamment bien sûr l'environnement, l'agriculture, la justice, l'alimentation. Et puis il y a ce passage sur les écrans, c'est un sujet omniprésent, hein, Pierre Bécu, dans la vie des enfants d'aujourd'hui, les écrans. Des enfants ont filmé un dialogue entre eux à La Réunion et il y a ce regard très froid, très lucide sur leurs propres parents. Écoutez-les.
Je ne comprends pas pourquoi avant il n'y avait presque pas d'écran et maintenant il y a d'écran.
Ben, heureusement, ma sœur à moi, ben, elle est absorbée par les écrans. Très absorbée.
Ben, ma petite sœur, pareil. Quel âge a ta petite sœur ?
8 ans.
La mienne, elle a 3 ans et elle est très très absorbée par les jeux vidéo. Je ne la comprends pas parfois.
Moi non plus. Mais elle commence à être méchante. Enfin, pas méchante, mais. Comment dire ? Pas méchante, c'est pas le mot, mais. Moins gentille.
Mais elle commence un peu à être agressive, quoi.
Voilà.
Mais. Ma petite soeur, ma maman elle la laisse plus longtemps sur la tablette que moi alors.
Moi aussi.
Et ça, je trouve un peu pénible et ça m'énerve. Soit je pars pleurer dans mon coin, soit je m'énerve.
Enzo, pourquoi en fait, quand tu parles de ta petite soeur comme ça, pourquoi tu n'en parles pas à ta maman?
Le problème, c'est que je l'en parle, mais vendredi, elle est arrivée à 1h et elle a si ma tati n'était pas arrivée, elle restait sur téléphone. Et le soir, en plus du téléphone, elle regarde la télé. Je trouve un peu pénible. Et moi, j'ai pas trop le droit de jouer avec son téléphone.
Moi aussi, j'ai un écran, mais sauf que je l'utilise jamais. Parce que des fois, ça nous intéresse pour jouer avec et après, de passer à autre chose. Parce que mon papa, lui, il est tout le temps sur son écran. C'est comme si ma soeur arrive, elle dit « Papa, est-ce que je peux mettre le feu dans la maison ?» Il va la dire oui, comme ça, sans réfléchir. Parce qu'il est sur son écran et il s'en fiche. Quand on mange, il est avec son téléphone. Quand on parle, il est avec son téléphone. Quand on est dans la voiture, il est avec son téléphone. Et ça devient grave parce que tout le temps, il est avec et... il s'en fiche un peu de nous.
Il fait pas attention à vous.
Voilà, c'est un peu ça, en fait.
Pierre Bécu, vous imaginiez à quel point les enfants allaient s'exprimer de manière très crue, en fait, hein, sur une réalité qui concerne leurs parents. Un enfant, naturellement, n'aime pas dire du mal de ses parents parce que ce sont les personnes les plus chères pour eux. Et là, c'est la réalité est terrifiante. Hein.
Ouais, alors ce qui est très intéressant, c'est que cette scène n'était pas du tout préparée. En fait, il y a eu des temps de préparation très longs, hein, d'un an à deux ans avec chaque groupe, avant vraiment de passer au tournage. Et en fait, on rentrait des jardins et il restait 20 minutes et j'ai demandé s'ils voulaient aborder un thème. Et spontanément, ils ont commencé à aborder ce thème-là. Par contre, la sincérité dont ils font preuve, elle est vraiment issue du fait qu'on a beaucoup préparé à l'avance. Donc ça, c'est aussi... Je parle en termes télévisuels, pas en termes radio ni presse écrite, mais c'est aussi ce qui fait un peu la différence entre le reportage et le documentaire. On est vraiment dans le cadre du documentaire. C'est-à-dire que le temps, pour nous, c'est important. Ça prend plusieurs années, mais ce n'est pas grave. Et cette notion du temps, elle est fondamentale pour moi dans le rapport aux écrans. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que c'est tous ces parents-là qui sont... C'est allé très, très vite, quoi, dans notre société. C'est infernal. Imaginez-vous la différence qu'il y a entre un téléphone d'il y a 10 ans et un téléphone aujourd'hui. Vous voyez un peu l'écart.
Et là, l'écart d'âge, parce que ce sont des enfants qui interrogent d'autres enfants.
Ouais, ils ont 9-10 ans. Hein.
Voilà. Et puis, Enzo parle de sa petite sœur qui a 3 ans, par exemple. Donc, il y a encore un écart d'âge à l'intérieur même d'une génération.
Alors là, je vais vous dire...
Il y a encore un écart de perception.
Ouais, très sincèrement, bon, que ce soit ici, en France métropolitaine ou en Afrique, pour avoir fait des ateliers au Sénégal il y a 6 ans, pour être allé donc au Burkina ces dernières années... Ça va encore plus vite en Afrique subsaharienne qu'en France. Encore plus vite. Et attention, parce que là, c'est la vitesse supersonique. C'est-à-dire que si on ne reprend pas en main les choses, au niveau des parents, au niveau des institutions, c'est comme si on mettait l'enfant au volant d'un smirmorque, alors qu'il ne touche pas les pédales, et on pousse le smirmorque dans la descente. Alors on peut dire, oui, mais moi, en tant que parent, je protège mon enfant, il ne sera jamais dans le smirmorque. Attention, si vous protégez votre enfant... Il n'est pas dans le smirmorque, mais il est au bord de la route. Parce que dans un groupe, il suffit d'un seul enfant qui dégoupille à cause de ses écrans pour qu'il puisse faire du mal à tous les autres. On le voit bien de ce que ça peut donner au niveau des phénomènes de harcèlement par le cyberharcèlement ou les phénomènes d'embrigadement idéologique, etc., à partir des écrans. Alors attention, je ne diabolise pas du tout. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'en servir d'une façon saine. Je dis oui, il faut s'en servir.
Oui, mais attention, c'est que vous mettez des caméras dans les mains des enfants, donc
et
vous mettez bien de la technologie.
Avec les smartphones aussi.
Mais voilà, et il y a toute une réflexion derrière. Ce que disent les enfants sur l'addiction des adultes même aux écrans, ils n'osent pas le dire à leurs parents quand ils se parlent entre eux dans votre documentaire.
Oui, alors voilà, bon, il y a un petit peu d'exagération peut-être chez certains enfants parce qu'il y a une frustration. Alors moi, j'en ai parlé avec les parents. Évidemment, je ne montre pas une scène comme ça sans l'avoir montré aux parents. Et au final, bon, ils ont accepté finalement que ce soit publié, si on peut dire, parce que je les ai convaincus qu'il fallait qu'ils soient fiers de leurs enfants, d'avoir levé ce problème. Un peu dans l'exagération, certainement, mais beaucoup dans la lucidité. Parce que si on considère aujourd'hui, s'il y a des parents qui considèrent, parmi ceux qui nous écoutent, les mamans ou les papas, qu'il faut donner les écrans aux enfants très tôt, ils ont absolument tort. C'est qu'il faut vraiment, avant 3 ans, ne rien donner du tout. Mais zéro. De 3 à 6, accompagné. De 6 à 9, on commence à leur laisser un peu de liberté, mais en contrôlant tous les contenus. Et évidemment qu'on est responsable de ces enfants. Je vous citais l'exemple du smirmorque. Attention, on est dans un phénomène dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences. Donc forcément que c'est la posture de l'adulte qui, par son exemple, va donner les mauvaises habitudes à l'enfant. C'est-à-dire que si l'adulte ne sait plus s'exprimer à son enfant, vivre des moments avec son enfant sans les écrans, il montre un mauvais exemple. Donc la reprise en main, je suis d'accord que ce n'est pas facile parce que c'est des outils tellement pratiques, on fait tellement de choses avec, mais il faut surtout éviter de le faire en présence de l'enfant jusqu'à l'âge de 3 ans.
Alors vous avez filmé aussi dans une école qui a été fondée par la fille de Pierre Rabhi, Pierre Rabhi qui nous a quittés en décembre dernier, paysan, écrivain, penseur de l'écologie, une école démocratique comme le disent les enfants eux-mêmes, où il n'y a pas d'écran là, où on fait plus de jardinage que...
Oui, oui, alors ils essayent de s'en extirper, mais ils ne sont pas non plus. Je suis sûr qu'il y en a. D'ailleurs, à la fin du film, on les voit, ils jouent avec un iPhone aussi.
Oui, mais néanmoins, en quoi la pensée de Pierre Rabhi vous a influencé?
Alors écoutez, nous, on a surtout tourné dans l'école publique, et moi, je crois vraiment fortement en la capacité du service public à relever les défis dans tous les pays. Par contre, c'est intéressant de regarder ce qui se passe un petit peu partout. Et là, il y avait cette école qui tente des choses. École à l'extérieur.
Qui est située.
C'est les enfants qui décident de ce qu'ils vont apprendre au jour le jour. C'est situé en Ardèche. Et puis, voilà, bon, c'est pas du tout l'idéal, mais il y a des choses intéressantes à retirer. D'ailleurs, il y a un réseau qui s'appelle Prof en Transition, avec lequel on va faire des débats sur Internet, qui s'intéresse beaucoup à ces notions-là d'enseignement à l'extérieur, de connexion au projet. Il y a aussi le réseau des Saventuriers, qui est basé aussi beaucoup sur une éducation basée sur le projet. Et donc, on a voulu montrer aussi ces expériences, mais pas d'un point de vue en les hiérarchisant. Juste, toujours pareil, en faisant en sorte que ce soit les enfants qui racontent.
Qui racontent et qui s'interrogent, et surtout qui participent à nous faire nous interroger, nous aussi, les adultes. On écoute cet extrait avec Pierre Rabhi.
Il faut partir de l'écologie humaine. Nous, les êtres humains, ben, nous sommes tout le temps en conflit, en jalousie, et nous créons des tas de problèmes. Et nous détruisons la vie. Donc, il faut déjà que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on soit bienveillants les uns à l'égard des autres pour avancer ensemble et en harmonie. Voilà. C'est ça le premier pas de l'écologie, c'est que les êtres humains s'entendent. Parce que s'ils ne s'entendent pas, ils peuvent manger bio, recycler leur eau et s'exploiter mutuellement et se détruire mutuellement.
Peux-tu nous dire comment les adultes peuvent-ils donner plus d'importance aux enfants?
Les enfants ont le droit de s'exprimer en lieu public. Ils ont aussi le droit de donner des conseils à les personnes plus âgées qu'eux. Ils ont le droit au respect, même s'ils sont pauvres ou faibles.
Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les enfants, pour l'écologie?
Il faudrait que les gens soient plus en harmonie, qu'ils arrêtent de chamailler et qu'ils arrêtent de faire des disputes et tout pour savoir c'est qui le plus fort, c'est qui va dominer. Il faudrait que tous soient en harmonie, tous soient d'accord, tous... personne soit en train de diriger, tous faire ce qu'ils veulent, qu'on soit tous en harmonie.
Votre documentaire, Graines d'espoir, Pierre Bécu, il est discuté à l'heure actuelle dans les écoles avec des débats.
Oui, on a fait beaucoup d'avant-premières scolaires. Alors là, ce qui est important pour moi, c'est de communiquer à nos auditeurs la possibilité qu'ils ont, même s'ils sont très loin de nous, de dire à leur famille, notamment en région parisienne, que demain soir à 19h, au cinéma Le Lumineur, à côté d'Hôtel de Ville, ils peuvent obtenir des invitations. Voilà, ce sera gratuit. Ils viennent de la part des RFI. Ils viennent de votre part, Emmanuel.
Et vous serez là.
Et je serai là pour faire un débat avec eux. C'est très important que ce film soit visible comme un autre film dans les salles de cinéma. Voilà, donc ils peuvent tout à fait le voir à partir de grainesdespoir.fr, le site, obtenir des invitations. Nous sommes conscients que nous allons faire beaucoup avec la jeunesse sur ce film, nous l'avons déjà fait. C'est extraordinaire de voir que sur des classes, sur des séances à 90, 120 élèves, on arrive à des prises de parole de plus de la moitié des effectifs qui ont envie de s'exprimer à la fin du film. C'est-à-dire que ça leur donne confiance, parce que c'est les enfants de tout le monde qui sont à l'écran.
Et puis, quand les enfants interrogent d'autres enfants, ils ne disent pas tout à fait la même chose que quand ce sont des adultes qui les interrogent ou inconsciemment les enfants ont toujours aussi tendance parfois à dire ce qu'on attend d'eux, non ?
Exactement. C'est-à-dire que c'est la base, mais vraiment c'est la base du projet, c'est le changement de posture. Dans quelle posture, en tant que réalisateur, je me suis mis ? Je me suis mis à leur niveau. J'ai dit, voilà, cette caméra, elle est à toi. Ce micro, il est à toi. Et ce changement de posture a provoqué chez eux une prise de conscience qui leur est propre. Ce n'est pas la conscience de l'adulte, c'est la leur. Ce que je souhaiterais maintenant, c'est que l'adulte, à son tour, en tant que parent, en tant que spectateur, essaye aussi de changer un peu de posture, parce que c'est pas seulement l'avenir des enfants qui compte, c'est notre avenir à nous aussi aujourd'hui, au quotidien.
Et c'est l'initiative qui peut donner aussi beaucoup d'idées pour travailler dans les classes hein, quand on est enseignant. Merci Pierre Bécu. Graines d'espoir, ça sort dans plusieurs salles en France. Et bien sûr, donc, il y a le rendez-vous à l'Hôtel de Ville. Dans quelques instants, la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, avec ce sujet, que peut signifier prendre du recul dans l'exercice de la parentalité. Vous voyez, on n'est pas si éloigné de notre discussion précédente. Ça sera juste après Kids.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Ce sont des conseils pour vous, les parents, pour les grands frères ou pour les grandes sœurs ou pour tous les éducateurs. On est avec le psychologue Ibrahima Girou. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Vous exercez comme psychologue à Dakar et nous abordons régulièrement des questions très différentes de parentalité. Aujourd'hui, on parle de prendre du recul dans l'exercice de la parentalité. On dit souvent aux parents qui ont des difficultés avec leurs enfants « Ah, mais il faut prendre du recul ». En général, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire.
Tout à fait, Emmanuel. Non, on conseille beaucoup de prendre du recul parce que l'on pense que les parents et les enfants gagneront grandement en ayant des capacités renouvelées pour mieux regarder leurs difficultés en face. Et il ne s'agit pas de capacités intellectuelles ici. Il s'agit plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, les capacités relationnelles. On pense qu'en réalité, ce recul permettra à chacun, parents comme enfants, de voir l'essentiel. Donc l'amour familial, il faut le préserver. Donc en prenant du recul, le parent envoie un signal positif à son enfant. Il lui dit « Notre amour est plus fort que nos difficultés. Aujourd'hui, c'est difficile, mais demain, ça ira mieux. » Donc c'est ça, prendre du recul également.
Oui, alors demain, ça ira mieux, comme vous dites. Hein. Le psychologue dit ça dans le cabinet. Mais sait-on pourquoi c'est si difficile en pratique de se le dire? Et surtout, comment ça se fait finalement quand on est au centre de la difficulté?
Emmanuel, le parent est assailli, c'est vrai, par une vague d'émotions dans laquelle se mélangent les conseils pas toujours bien réfléchis ou bien dosés des amis et de la société en général. Comme vous dites, hein, c'est toujours plus facile à dire. Et il y a dans ce mélange de l'angoisse naturellement inhérente au métier de parent, le sentiment que la relation avec notre enfant est en train de nous échapper un tout petit peu, comme si on ne l'a jamais maîtrisé un jour.
Ça veut dire qu'en fait, on ne maîtrise pas une relation avec son enfant. Déjà, il faut bannir ce genre de mots, de concepts, d'illusions.
En réalité, il s'agit de construire ensemble la relation, hein, de la valoriser ensemble, de la maintenir ensemble, de maintenir la flamme, la chaleur de la relation. Et il s'est plutôt agi de bienveillance mutuelle, de préserver ensemble la qualité de la relation. Ce n'est donc jamais, voyez-vous Emmanuel, quelque chose que l'on maîtrise puisque c'est dynamique, c'est changeant, c'est vivant, c'est sensible. Et c'est ça qui fait vivre la relation parent-enfant. Et Emmanuel, le problème vient de ce que certains parents sont mal à l'aise avec le changement et veulent maîtriser et contrôler la relation. C'est cette obstination à contrôler la relation, pour ne pas dire cette obsession de tout contrôler, qui use le parent et qui peut tuer la relation avec l'enfant.
Alors, est-ce qu'il existe, Ibrahima Giroud, des choses simples qui peuvent aider le parent à s'exercer, à prendre du recul, concrètement?
Il faut voir comment on peut s'exercer. Tout d'abord, à prendre ses responsabilités pour ne pas subir la pression de ce que les autres pensent. Et de ce que les autres attendent de nous comme comportement. Cette attitude enlève déjà les pressions inutiles. Ensuite, penser à son propre bien-être pour pouvoir assurer le bien-être de son enfant. Vous savez, comme dans l'avion, on vous demande de mettre votre masque à oxygène avant de le mettre à votre enfant. Donc, si le parent stresse pour le bien-être de son enfant, il risque de stresser son enfant par son mal-être. Il faut se donner le droit de respirer. C'est la meilleure façon d'aider votre enfant. Et quand vous êtes bien, votre enfant pourra s'ajuster plus facilement à aller mieux. S'éloigner des tentations de contrôler la relation vous attirera le profond respect de votre enfant et une plus grande marge pour régler les problèmes, voire prévenir les problèmes.
Prendre le temps donc de se faire du bien pour prendre du recul dans l'éducation de ses enfants, c'est ça, si j'ai bien compris.
Exactement, Emmanuel. Se faire du bien en tant que parent fait du bien à votre enfant. En réalité, les enfants copient l'attitude des parents et apprennent à leur tour à se faire du bien, même quand il y a des difficultés. Donc cette attitude des deux parties, qui est ici initiée par le parent, est bénéfique à la relation. Voilà comment, en définitive, prendre du recul permet de mieux comprendre et de résoudre les difficultés dans la relation parent-enfant. Donc prendre du recul, ce n'est pas prendre du retard.
La question à méditer, Ibrahima Giroud, pour prendre du recul avec ses enfants.
Emmanuel, depuis quand la souffrance psychologique et morale du parent fait un quelconque bien à l'enfant?
Merci à vous, Ibrahima Giroud. Tous ces conseils et ces méditations sont à retrouver dans notre série de podcasts Parents-enfants d'ici et d'ailleurs sur les plateformes de téléchargement. Et bien sûr, vous retrouvez aussi le lien sur la page 7 milliards de voisins sur RFI.fr. Merci à vous, Ibrahima Giroud. Et merci à Maïmouna Diop qui a assuré ces enregistrements au studio de Dakar, RFI Mandincamp et Full Day. Merci Ibrahima, à bientôt.
Au revoir Emmanuel, à bientôt.
Et merci bien sûr à l'équipe de 7 milliards, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de la fête, du droit à la fête, tellement malmenée depuis la pandémie, les clubs, les boîtes se meurent. Comment réinventer la fête, ces moments collectifs tellement importants pour les jeunes. À demain.